On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Bel et bien Julien Clerc, le vrai Julien Clerc. Je tiens à le préciser parce qu'il peut y avoir une intelligence artificielle. Non ? Tu t'en sers, Julien ?
Un peu.
De l'intelligence artificielle ?
Ah, mais pas dans mon métier.
Ah non, mais parce que c'est intéressant. J'ai reçu Jeanne Mas, j'ai reçu Patrick Bruel. Je leur ai posé la question s'ils s'en servaient. Jeanne s'en sert, par exemple, pour les pochettes de ses disques, pas pour les paroles. Oui, absolument. Elle s'en sert. Toi, dans ton quotidien, est-ce que.
Le quotidien, mais rien à voir. Dans le métier, pas du tout. Parce que dans mon métier, je travaille vraiment à l'ancienne. J'écris mes chansons au piano comme je le faisais quand j'avais 20 ans.
Le petit stylo.
Exactement. Non, moi, j'ai pas de stylo pour la bonne raison que j'écris pas mes paroles. Donc,
Non,
mais je compose à mon piano. Et puis, la différence, c'est qu'on en parlait plus tôt. Là, au lieu d'un mini cassette, j'enregistre mes trucs sur mon iPhone.
C'est oui, oui.
La chanson. Il faut vraiment le faire tout de suite. Il faut fixer.
Parce c'est à l'instinct.
Non, la vérité, elle se situe souvent dans le premier jet. Et il ne faut jamais le perdre, le premier jet. Il y a quelque chose, il y a une espèce de grâce.
Je suis tellement d'accord avec toi.
Il y a une espèce de grâce qu'on peut perdre après.
Bien sûr.
Alors donc, moi, je le fixe tout de suite. De même que, avant de rechanter sur scène, moi, je réécoute les versions originales. Et je réécoute comment je chantais à l'époque. Parce qu'après, on perd ça. Et il ne faut jamais perdre ça. Parce que c'est, la vérité, elle se situe là, toujours dans les premiers instants. Et quand on travaille avec les musiciens, je ne l'ai pas toujours fait ça. Hein. Mais aujourd'hui, je suis hystérique, je leur dis, je veux la version originale. Alors des fois, je vois l'incompréhension dans leurs yeux. Et j'ai été terriblement heureux quand j'ai regardé le film « This is it » de Michael Jackson. Il y a une scène merveilleuse. À un moment donné, il est là en train de répéter. Et puis à un moment donné, il arrête tout. Il va vers le directeur musical. Qui vraisemblablement a été mettre un ou deux trucs à lui là-dedans, il lui dit avec sa petite voix, mais c'est pas difficile, ce que je veux c'est la version originale.
C'est fantastique.
C'est ça qu'on veut, c'est la version originale. C'est ce qu'il y a sur l'enregistrement, pas besoin de nous mettre des trucs à vous.
Oui.
Vous mettez ce que j'ai mis la trois semaines à suer sang et eau pour mettre sur le disque.
Oui.
Hein.
On va pas s'énerver non plus. Julien, gardez vos aigus. Hein, n'oubliez pas, mon petit, gardez vos aigus. Et là, maintenant, on tourne une grande page sur Nostalgie avec le nouvel album. Alors là, on se fait accompagner. Serge Lama, Gaëtan Roussel, Paul École, dont on a parlé tout à l'heure et on va y revenir. Carla Bruni, une amie de cœur, une amie de route, que je dirais.
Une amie.
Une amie, tout simplement. Didier Barbelivien, un jeune débutant qui vient d'arriver dans le PAF. David McNeil et Benjamin Biolay. Donc, c'est le nouvel album qui s'appelle Une vie. Alors,
et une photo d'Anton Corbin. J'en suis très fier parce que.
Elle parle beaucoup.
C'est un photographe, on va dire, légendaire qui a pris toutes les. Et les Stones, et tout le monde, et U2, etc.
Oui.
Et j'ai été très charmé, très honoré. Qu'il accepte de me prendre en photo.
Qu'est-ce qu'elle dit pour les auditeurs qui n'ont pas évidemment l'image ? Qu'est-ce qu'elle dit pour toi dans ton fort intérieur, dans ton hypersensibilité qu'on connaît à travers tes chansons ? À travers Julien, c'est une vie. On va pas se mentir. Allez, tout le monde le sait, tu vas avoir 80 ans bientôt.
Ouais, j'aurai 80 ans à Bercy, le 9 octobre, à 5 jours près.
C'est une histoire de dingue parce que c'est toi qui ouvres le premier concert à Bercy.
Ouais.
Et tu t'imagines la boucle à 80 ans et que excuse-moi d'être impudique au cas où. Elle dit quoi, cette photo ?
Je sais pas. Elle dit que le mec, ça va, voilà, 80 ans.
Tu parles de l'esthétique.
Ah oui.
Moi, je parle d'autre chose.
Ah, une vie, c'est, à mon sens, c'est des thèmes qui sont. C'est plutôt, ça aurait pu s'appeler nos vies, franchement. Hein. Alors, évidemment, il faut avoir.
Ça, c'est intéressant, nos
certain,
vies.
Il faut avoir un certain âge pour avoir ces vies-là. Je veux dire, il faut avoir perdu des gens qu'on aimait, avec qui on avait vécu. Mais dedans, il y a de l'amour, on va dire.
Mais il y a du partage dans nos vies.
Voilà, c'est ça.
Parce que ce que tu m'as transmis, moi, quand j'étais jeune, même tout au long de ma vie, comme je le disais en introduction, effectivement, c'est une vie, mais ce sont nos vies que tu as partagées.
Oui, mais parce que c'est vrai que c'est tout ce que peut rêver de mieux un chanteur. C'est-à-dire, on accompagne, quand on dure un certain temps, forcément, ça veut dire que si on est toujours là, qu'on a accompagné les gens de son pays et que certaines de nos chansons les ont accompagnées dans des moments gais ou tristes de la vie. Et des fois, la même chanson peut avoir accompagné dans un moment gai, mais aussi un moment triste. Je le dis parce que moi, je garde beaucoup de lettres qu'on m'envoie. Parce que dans les moments de doute, tout le monde en a des moments de doute.
Évidemment.
Moi, je les relis.
On n'est pas en marbre.
Et ça me rebooste.
Ouais, alors ça peut te réconforter ou te déstabiliser, mais tu gardes tes aigus et tu gardes l'original en fait, c'est ça ce que tu veux dire?
Oui.
On est d'accord.
C'est sûr.
Oui, c'est sûr. Alors, pour les auditeurs qui connaissent pas l'éparvis, on va faire une petite virgule. Mm-hmm. Parce que l'éparvis, c'est un message. On parlait de Paul École et c'est toi qui vas en parler.
Il faut absolument le dire, oui. C'est de lui parce que... Ça vient de lui, l'impulsion vient de lui. Mmh. Moi, je lui ai envoyé une mélodie et il m'a renvoyé quelque temps après le texte et la vidéo que la France entière a vue, mais qu'il se trouvait que je n'avais pas vue, moi.
Voilà.
À l'époque, la vidéo de Stéphane Voirin chantant devant le cercueil de sa compagne Agnès Lassalle, qui, à Saint-Jean-de-Luz,
avait été assassiné
par un de ses élèves.
C'est un truc de fou, ça. Et ouais. Effectivement, le jour des funérailles, devant l'église, on s'en rappelle tous. Ouais. Ça a été un mouvement, c'est comme sur la place Tiananmen. Mmh. Cet étudiant, tu te rappelles, devant le char.
Ouais.
Nous, eh ben, on a cette image devant l'église, son compagnon, qui fait quelques pas de danse. Ils avaient cette passion commune, elle et lui. Et là, d'un duo, eh ben, ça devient un solo.
Ouais.
Et c'est quelque chose de très émouvant.
Incroyable, une impulsion incroyable. Oui. Il danse d'ailleurs, il faut le savoir, sur un morceau de Nat King Cole, hein, qui s'appelle Love, je crois.
Exactement. Et ce qui est beau, et on va laisser bien sûr la musique parler, c'est qu'in fine, à la fin, c'est la vie qu'il y a.
Il tourne, il tourne, il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour.
On se tutoie.
Et on profite enfin du week-end jusqu'à 20h.
Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Vous êtes hyper ému là, non?
Non, c'est pas ému. Non, mais je repense. C'est quand je l'ai appelé, le jour où je l'ai appelé, par exemple, j'étais Stéphane Voirin. J'étais franchement le plus gêné des deux. C'était pas celui qu'on pense. Hein.
Bien
donc,
sûr.
Moi, j'étais vraiment dans mes petits souliers. D'ailleurs, j'ai été complètement crétin. Je lui ai dit, oh, qu'est-ce que vous dansiez bien.
Non, mais on ne sait pas, on est maladroit dans ces cas-là. Non, mais on est maladroit dans ces cas-là.
Bon,
on ne sait pas par où commencer.
Mais il a été extraordinaire. En fait, il a été. Tu viens de parler de C'est la vie qui gagne, il est tout à fait dans cet état d'esprit. Donc on a longuement parlé, franchement, je ne sais pas pour lui, mais pour moi, ça a été franchement une conversation qui comptera dans ma vie, pour le coup, parce que c'était vraiment très touchant, et en même temps, il s'est beaucoup confié, enfin, c'était vraiment super.
Il est virevoltant, ce morceau, il est la danse de la vie. Moi, je me demande comment, dans ce moment insupportable, vu que tu l'as eu au téléphone, comment lui peut continuer à avoir... l'arrogance de tournoyer sur le parvis.
Non, c'est parce que moi, ce que j'ai cru comprendre de la conversation, c'est que cette femme lui a apporté énormément.
Bien
et
sûr.
Lui a fait découvrir beaucoup de choses, en fait, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je n'en dirai pas plus parce que c'est sa vie. Mais évidemment que, comme tu l'as dit, ils faisaient de la danse ensemble. Donc ça, c'était très, très, très important pour eux.
Oui.
Et alors, c'est pour ça qu'il a eu, je pense, cette impulsion merveilleuse, à la fois grave et tellement... beau, enfin, de danser comme ça tout seul, c'est génial. Et puis il m'a dit, vous savez, ne vous inquiétez pas. Je lui ai dit, vous savez, ça risque de faire, hein, j'ai pas sorti de chanson depuis longtemps, on risque d'en parler, moi j'ai pas envie de vous emmerder dans votre vie. Il m'a dit, non, allez-y, ne vous censurez pas. Il m'a dit, tout ça, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit positif. Donc, j'étais très, très soulagé, en fait.
Oui, ouais, parce que cet homme, le positif qui sort de là, c'est très troublant. Je faisais cette parallèle d'image de cet étudiant sur la place Tiananmen. C'est exactement la même chose. Et les parvis, tu les chantes magnifiquement bien. Et tu vas les chanter parce que là, je ne sais pas comment tu vas faire dans les 2 années à venir. Tu vas faire du sport, tu vas faire quelque chose, tu vas soigner tes aigus. Parce que dans les 2 ans à venir, tu me dis, bah oui, mais avant, il y avait Barbara, il y avait Brassens, il y avait Brel.
Oui, oui.
Mais,
c'est énormément de tournées.
Hein. Oui, d'accord. Ouais. Non, mais excuse-moi une fois de plus, quand ça fait 50-60 ans qu'on chante.
68, oui.
Voilà, c'est ça. On n'a pas la même capacité physique quand même. Excuse-moi.
Ah, si.
Je ne suis pas très loin de toi, mais bon, quand même.
Non, mais c'est une question d'énergie après.
C'est-à-dire que tout passe par la tête?
Non, ouais, mais il faut être positif, il faut de l'énergie, il faut bien dormir, bien manger comme il faut. Et voilà, prendre soin de soi. Et puis. Ça va aller tout seul.
Comment tu fais pour bien dormir? C'est-à-dire pas trop d'excès, pas trop de bouffe, pas trop de boissons,
Jamais de boissons, moi. Mais bon,
jamais de boissons?
Non.
D'accord.
Ça fait des années, là, sans me forcer, franchement. Hein.
Oui, non, moi, il n'y a pas de souci.
Donc là, voilà.
Un équilibre global.
Ouais, un équilibre global. Et puis tout, mais enfin, ça a toujours été mon cas, tout tendu, toute la vie, quand on tournait, toute la vie s'organise pour ces 2 heures du soir. Mais je n'ai pas à me forcer. C'est comme les mecs qui font un match. Avant un match, je pense que leur journée, elle est dédiée.
Elle tourne autour
des 2 heures.
C'est organisé.
C'est organisé. Tout est organisé pour ça.
Oui.
Et donc, c'est au contraire. On a la chance, quand on est chanteur, de vivre plusieurs vies. Alors, il y a la création, et puis après, on l'enregistre, après, il y a la promotion.
Bien sûr.
Après, il y a la tournée. Et la tournée, ma foi, il y a une règle, c'est que ce qui compte, c'est les 2 heures du soir.
Voilà. Et toute l'antenne de Nostalgie tourne autour de la tournée de Julien. Alors, quelques petites dates comme ça. Et puis, alors, en plus, ce n'est pas des petites dates quand même, parce que ce sont des zéniths. L'homme qui est au zénith sera à Rouen. Alors, tout ça, c'est en 2027. Alors,
en 2027, parce qu'avant, il y en a un 2026.
Oui, on va en parler, bien sûr. Mais quand même, les zéniths, Rouen-Nantes, Accor Arena, Bordeaux, Toulouse, Zénith, Aix-en-Provence, Dijon, tu vas partout. De toute manière, on ne pourra pas te rater. Ouais. Tu traverses les frontières. Tu vas jusqu'à Bruxelles, bien évidemment, chez nos amis. Et puis avant, en 2026, monsieur, au mois de mars 2026, vous allez prendre une grande respiration avant de partir, parce que là, vous êtes partout, Saint-Étienne, Montélimar, Montpellier, Grenoble, La Baule. Vous faites les moindres petits trous de souris de la France, Saint-Quentin, Strasbourg, tu vas dans l'Est, dans l'Ouest, au Nord, au Sud, et tu es partout. Monsieur Julien Clerc va arriver à ses 80 ans. Est-ce que vous allez être réellement au zénith à 80 ans ?
Non. Ah, au zénith
De votre carrière.
Ben, je pense que l'énergie de la jeunesse est remplacée par une plus grande conscience de ce pourquoi je suis là. Donc, il y a sans doute plus de joie tranquille à faire ce Bercy. Je vais sûrement l'aborder différemment de la première fois quand je l'ai fait. Il y a un côté artisanal quand même dans notre métier. Il y a un truc de savoir-faire.
Bien sûr.
Alors, on a toute notre vie attendue vers ça, à faire pour le mieux. Donc.
Mais ça veut dire que tu reviens au point de départ, ça veut dire quoi ?
Non, mais je veux dire...
La même chose en mieux, la même chose en plus serein,
ouais, c'est ça. Parce que
une appréhension quand même.
Il y a toujours une appréhension, mais elle arrive au moment de mettre le pied sur scène. L'appréhension, elle arrive dans les 2 heures qui précèdent.
Ouais.
Parce que, c'est drôle, parce que je voyais un collègue, l'autre jour, je suis allé voir Pierre Lapointe à l'Olympia, et j'ai vu les 2-3 dernières chansons des coulisses. J'aime bien me mettre là, parce que c'est un endroit que je connais bien, c'est l'endroit où on est juste avant de mettre le pied sur scène. Donc j'aime bien voir les artistes de là.
Et le ton d'observation, toi, sur tous les artistes à chaque fois sur scène d'interview, c'est ça. Observer, regarder, ou laisser ce qui ne va pas.
Comment il fait ça
Excuse-moi, je t'ai coupé.
Je me disais quand même, c'est quelque chose de chanter pour des gens. Mais que ce soit 3, 30, 300 ou 3000, hein, ou 30 000, c'est à peu près la même chose.
Spectateur, oui.
Ouais, c'est quand même le fait de se lancer dans une... On parle de fosse au lion, mais c'est
une
vrai
arène,
ça ressemble un peu à ça quand même. Ouais. Et je le voyais là face au public, c'était les dernières chansons, il les a fait chanter, en fait, etc. Et c'est quand même... C'est pas rien, moi, je trouve, d'aller se donner en spectacle comme ça.
T'as ressenti quoi par rapport à lui quand t'étais derrière le rideau, là, en coulisses ?
Pas rien, parce que j'entendais les gens... Et regardais comment il les faisait chanter, tout ça. Cette magie, ça ne disparaît jamais. Cette magie de la scène.
Mais tu as appris quand même beaucoup des autres aussi. Tu t'es beaucoup inspiré des autres globalement.
Moi, je les ai tous vus faire.
Oui, c'est ça.
Surtout ceux à l'époque où j'étais en première partie, parce que ça m'intéressait beaucoup de voir comment ils faisaient. Et cependant, il y a quelque chose qu'on recherche toute sa vie, mais qu'on ne retrouve pas. Qui est la première fois, et là j'étais en première partie d'Adamo, c'était à Boulogne-sur-Mer, et j'ai été propulsé sur cette espèce de trou de lumière. Je trouve que c'est comme ça, c'est le mieux qu'on peut résumer, c'est-à-dire qu'on a là ce grand trou noir avec ces lumières qui vous aveuglent. Je me souviens avoir chanté en apnée mes 3 chansons ce jour-là à Boulogne-sur-Mer, et je n'ai plus jamais retrouvé cette impression-là, parce que depuis j'ai acquis du savoir-faire. Mais quand même.
Ouais, mais tu l'apprécies plus maintenant, parce que t'es dans une espèce d'insouciance, mais tu te rappelles plus. Là, aujourd'hui, tu peux déguster ce que tu n'arrivais pas à avoir comme sensation avant.
Déguster, je peux me tromper, alors qu'avant, je craignais énormément de me tromper. Aujourd'hui, quand je me trompe...
J'ai le droit de me tromper.
Ouais, j'en rigole, etc.
Ouais.
Mais la peur n'est jamais loin. C'est-à-dire que c'est bien,
petite flamme à l'intérieur.
C'est bien de se tromper une fois, mais deux faut pas.
Voilà, voilà, ça c'est bien ça. On apprend beaucoup, mais j'aime bien cette histoire de la première fois, comme tu disais, ouais. Avec ton dictaphone, de se dire l'instinct tout de suite, pa, il faut pas que je le perde, il faut pas que je le perde.
Non, non, non.
Boum, c'est maintenant.
Oui, c'est maintenant. Il faut, en fait, là, il faut jamais oublier les débuts. Les débuts de toute chose. En fait, je ne sais plus qui disait quand on fait une connerie. Quand un truc a mal tourné, l'erreur est initiale. Mmh. L'erreur, elle est toujours initiale. Mais la chose bonne, elle est toujours initiale. Mmh. Elle vient toujours du début. Et ça, il ne faut jamais l'oublier.
Et je n'oublierai jamais que cette émission est une espèce d'ode à Jeanne Mas, toute première fois, toute première fois.
C'est vrai.
En fait, c' 'est ça. Jeanne était dans ce studio il n'y a pas si longtemps que ça.
Elle est touchante. Là, je l'ai
elle,
vu,
est, ah ouais, elle est extraordinaire.
J'ai entendu parler.
Ce côté
là,
fantasque,
jours,
elle est extraordinaire.
Non, mais même, j'ai entendu parler là. Dans une émission de télévision, j'ai bien aimé tout ce qu'elle a dit, comment elle se plaçait par rapport à la vie. Je ne l'avais pas revue depuis très 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 longtemps. J'ai été content de l'entendre parler comme ça.
Elle va être contente de t'entendre sur la toute première fois qui ne reviendra jamais quelque part. Là maintenant, on va laisser la part belle aux auditeurs. Il nous reste quelques petites minutes en ta compagnie. Les auditeurs, on leur demande toujours « Est-ce que tu connais bien ton ?» Et là, trois points de suspension, c'est
«
Est-ce que tu connais bien ton ?» Julien Clerc, tout de suite. Alors, la minute nécessaire et obligatoire de Julien Clerc, c'est pendant 60 secondes que je vais poser des questions, bien sûr, à Julien Clerc et surtout à un auditeur pour savoir s'il connaît bien son Julien Clerc. Et sans plus attendre, on me dit au standard, Monsieur Quentin, que c'est Albert. Bonjour Albert.
Allô, allô. Bonjour Reichmann, bonjour Julien.
Bonjour, bonjour.
Bonjour toute l'équipe.
Appelez-moi Reichmann, mais on peut se tutoyer si tu veux, il n'y a aucun souci puisque c'est le titre de l'émission. Et alors, pour ma plus grande surprise, et en plus il ne se force même pas, je suis hyper ému, Julien Clerc me tutoie et va tutoyer pendant toute cette émission.
Ah maintenant c'est pour la vie. Hein.
Ah, alors je suis d'accord, je suis très heureux.
Ah bah oui.
Et maintenant c'est pour la vie. Albert, je veux tout savoir sur toi, d'où tu appelles, ce que tu fais dans la vie, on va voir si tu connais bien ton Julien, dis-moi tout.
Ben écoute, je suis DJ, puis styliste, créateur de vêtements, DJ depuis 1964, d'ailleurs un des premiers DJ sur Terre, je pense.
D'accord. En fait, c'est un DJ qui s'appelle Albert, c'est Albert DJ, c'est en fait tout simplement.
Très bien, bah, je pense qu'il m'a reconnu, enfin bref.
J'ai connu un Albert à l'époque qui était DJ, c'était rue de Lappe, qui était dans un établissement quand je suis monté à Paris de Toulouse et après dans Lyon chez mon grand-père. Je ne sais plus comment s'appelait cet établissement rue de Lappe, mais bon.
Le Balazzo.
Ah, c'était le Balazzo. Ah ouais, d'accord. Alors on va voir. Donc ça veut dire que tu as grandi évidemment tout comme moi avec Julien Clerc. Alors les tranches de vie, on va savoir si tu connais bien ton Julien. Est-ce que tu es prêt pour 60 secondes, Albert.
Bien.
Bien. Voilà, c'était en fait, d'habitude, ils disent oui, avec plaisir. Là, il dit bien. Attention, Albert. Oui, parce que.
Je suis un peu nul, là, c'est sur pas... les questions.
Quel est le vrai prénom de Julien Clerc, Pierre-Alain Leclerc ou Édouard Leclerc?
Paul-Alain Auguste Leclerc.
Oh, disons, okay. Quelle rencontre est déterminante pour Julien en 1968? Est-ce une apparition de la Vierge ou est-ce Étienne Rodagile? Vite. Quel personnage interprète Julien dans la comédie musicale R? Claude Bukowski ou Maurice Vian?
Oh, je dirais Maurice Vian.
Oh là 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 là. En 75, Pif Gadget. Dans Pif Gadget, Julien prête son apparence soit un voyageur de l'espace, soit un corsaire. Vite.
Je dirais voyageur.
Aïe. Dans quel film Julien fait-il sa première apparition au cinéma? D'amour et d'eau fraîche ou chasse et pêche?
Allez, je veux dire la première.
D'accord. Comment s'appelle le parolier de l'immense tube Ma préférence? Jean-Loup Dabadi ou Jean-Pierre Chabada?
Dabadi.
Et enfin, parce que c'est important. Ah, j'en ai encore deux ou trois qui sont drôles. Vrai ou faux? Julien a été légéré d'une célèbre marque de voiture. Vrai ou faux?
Faux.
Ah non, bah non, c'était vrai. Et en 91, Julien a remporté un prix. Soit c'est une victoire de la musique, soit une victoire sur les prix Leclerc.
Victoire de la chanson.
De la musique. Ouais, c'est ça. Bravo. Ben, Julien, il est mort de reste, ça fait plaisir. Je les ai écrites avec mon pote Quentin. Je me suis marré à faire ça. Alors, quand même, on va lui offrir un joli cadeau, une platine. Ça va lui rappeler quand il était DJ derrière les platines à Albert. Ça fait quand même bien plaisir. Juste, je vais revenir, bien sûr. Si tu as des questions, Albert, pour Julien, ça me fera plaisir de les entendre et de lui poser. Tu vas pouvoir lui poser. Je vais revenir sur deux ou trois petites questions, petites interrogations. Tu ne t'appelles pas Édouard Leclerc, mais bien et bien Paul Alain Leclerc. Étienne Rose d'Agile, on a parlé. Claude Bukowski, on a parlé évidemment de R. Pif Gadget, j'avais pas la ref. Julien, Pif Gadget, dans Pif Gadget, tu prêtes ton apparence à un corsaire. Je l'avais pas, Julien, le corsaire.
Ouais, corsaire Julien.
Ouais, c'est quoi ça?
Ah, ben, c'était ça. Et en plus, c'était vraisemblablement en l'honneur de mon grand-père aimé, qui était un communiste fervent. Alors, Pif Gadget.
J'étais à Saint-Michel-sur-Orge, je sais plus par là, dans le 91.
Ah, ouais, Pif Gadget, ouais. C'était. Voilà, ça allait.
C'était les communistes.
Ça allait avec l'UMA et tout ça.
Ouais.
Et donc, bah ouais, j'ai été corsaire Julien, c'est comme ça.
Intéressant. On continue. D'amour et d'eau fraîche, c'est quand même la rencontre avec Miu Miu, c'est un des
points. Oui, hein, bien sûr, très important. Oui. Jean-Pierre Blanc, il s'appelait, le metteur en scène.
Le phénomène.
Enfin, c'est là que j'ai découvert, franchement, que c'était pas mon truc d'être acteur.
Ouais, ça, c'est quoi? C'est le rapport à l'image qui te plaisait pas?
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que, d'abord, d'une part, nous, en faisant un métier où nous recevons immédiatement l'amour des gens, comment dire. On passe notre temps à avoir les poils qui se dressent. Alors que cinéma, c'est
tu parles d'émotions directes.
Ouais, c'est des émotions directes. C'est ça.
Instantané.
Et puis, comme disait Jouvet, cinéma, c'est l'art de trouver une chaise. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup au cinéma. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude d'attendre trop comme ça. Et puis, non, mais même jouer la comédie, c'est une chose que je ne sais pas très bien faire. Voilà.
Tu trouves que c'est un peu fabriqué, un peu truqué?
Non, pas du tout, parce que j'ai la plus grande admiration pour les grands comédiens. Alors, pas du tout. C'est juste que j'en suis pas très capable. Voilà. Je ne suis pas très bon pour ça.
D'accord. Là, je vais juste, excuse-moi, mais vrai ou faux, l'égérie d'une célèbre marque de voiture, j'aime. Oui, bah, il l'a fait en plus.
J'aime les routes bleues, voilà.
Mais c'est fantastique, rappelez-vous quand même. On l'a là ou pas le j'aime? Écoute ça. Le j'aime.
J'aime.
C'est toi, tes aigus, tu les as là.
Oui. Parole de Jean-Loup d'Abadi.
Excuse-moi, t'avais besoin d'argent ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là?
Mais à chaque fois que j'ai fait la pub, c'est vrai que c'était bien payé les pubs, mais je trouvais qu'elle était belle, elle était jolie. En plus, je travaillais avec d'Abadi, donc puis j'ai bien aimé la chanson. Il y avait même à l'époque des gens qui me la réclamaient, la chanson, sur scène.
Mais non, mais... la pub.
Oui.
Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ton déclic pour accepter, à part effectivement le côté pécuniaire qui peut être assez fructueux.
Non, mais il y avait un film avec Yves Boisset. Enfin, je sais pas, c'était un
ah oui,
un
Yves Boisset quand même.
Oui, j'avais tous les moyens que je voulais pour enregistrer la chanson. Non, c'était franchement une belle opération. Et puis on avait écrit la chanson, on avait rendez-vous avec les gens de la pub, là, les gens de mon copain Séguéla. Et alors, ils avaient fait toute une liste là, de mots. Il fallait faire la chanson avec ces mots-là. Alors, très, très rapidement, d'Abadi avait dit, bon, ben voilà, il y avait route, bleu, machin, etc. Et il avait dit, ben voilà, on va faire j'aime. Et moi, j'avais trouvé ces trois notes, en fait. J'aime. Il avait écrit j'aime, et moi, j'avais mis j'aime. Et après, on leur avait joué ça. Alors, ils se prenaient la tête et disaient, oh là là, mais alors, un peu comme le truc de Molière, là, hein, j'aime les routes bleues, ou alors j'aime bleu les routes, ou Citroën, que j'aime le bleu des routes. Enfin, alors à un moment donné, Séguéla est arrivé, il avait dit, écoutez, c'est ce qu'ils ont trouvé, c'est très très bien, j'aime les routes bleues, arrêtons de se prendre la tête.
Pour les auditeurs, Jacques Séguéla, c'était quand même celui qui a fait la Force Tranquille pour Mitterrand.
Oui, c'est ça.
C'était le grand pubard.
C'était le grand pubard, ouais, oui. C'est ça, de l'époque. Et heureusement qu'il était arrivé, parce que tous, ils étaient là à se gratter la tête. Il avait dit, mais enfin, c'est très bien ce qu'ils ont trouvé. J'aime les routes bleues, c'est ça, c'est tout.
C'est extraordinaire. Donc, tu n'avais pas besoin d'argent, mais c'était pour le plaisir, c'était pour le partage. Et c'était ce côté populaire de Cocatrix, en fait, qui disait, il faut être quand même assez proche du peuple aussi. Parce que quand tu fais une pub, il y a une détonation obligatoirement sur le quotidien des gens, en disant, c'est Julien Clerc qui chante j'aime.
Non, mais c'est comme quand on m'avait demandé de faire... Moi, la pub, moi, je suis pas contre la pub. Hein. Je veux dire, il y a des trucs qui sont très, très bien en
bien
pub.
Sûr.
Ça va avec l'époque. Je pense que on a accompagné un petit peu notre époque avec cette pub-là.
Pas mal de générations.
Ouais.
Et t'as accompagné beaucoup, beaucoup de gens. Albert, je voulais juste te remercier. Est-ce que tu as une question à poser à notre ami Julien Clerc, qui est notre invité ce soir?
Non, j'ai quelque chose, une anecdote à lui apprendre.
Ouais.
J'étais DJ dans un club qui s'appelait, un club écossais qui s'appelait Le Kilt en 68 à Londres.
Ouais.
D'ailleurs, j'étais un des premiers DJ à Londres. Et donc, la Friend Touch, elle se situe plutôt dans les années 60.
Elle s'exportait à cette époque, ouais.
80.
Bien sûr.
Et je passais des slows. Et la plupart des slows que je passais, que je jouais, c'était des slows François, comme Françoise Hardy, les temps modernes de Béjart. Et puis il fallait annoncer les titres à l'époque, les DJ annonçaient les titres.
Ah, ouais.
Et donc avec mon accent français,
ouais.
Ça donnait Now Slow Motion with Mr. Julien Clerc, la cavalerie. Et là, bien sûr, les Anglais étaient pliés en deux, soufflés de rire. Et moi, j'avais honte. La seule fois, en fait, ce qui me faisait plaisir, c'est que les petites Anglaises venaient me voir et me disaient « Hey, Froggy, I love your accent !»
Froggy, bah oui, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est les grenouilles. Hein.
Non, mais c'est charmant.
Exactement,
pour les Anglais.
C'était les grenouilles, puisque les Anglais nous situaient chez la grenouille parce qu'on aimait, enfin, ils pensaient que les Français aimaient tous les cuisses de grenouille. Ouais.
Hein. Et bah oui.
Donc on m'appelait DJ Froggy.
Eh ben voilà. Eh ben ça fait super plaisir de t'offrir une platine à DJ Froggy. Ça va te rappeler tes.
Ben ça m'en fera.
Ben ouais, ça fait très
Julien,
plaisir.
Julien, j'ai connu Julien, une petite anecdote, j'ai connu Julien aussi, mais je pense qu'il s'en rappelle très bien. On est allé dans sa propriété ou la propriété de Virginie un soir. Un week-end où c'était une fête sur la libération. Il fallait qu'on se déguise genre Deuxième Guerre mondiale. Ça te rappelle quelque chose, Julien?
Pas du tout. Mais alors, si tu voyais sa tête, il se rappelle plutôt de si j'étais elle ou je ne sais pas. Mais si j'étais lui, d'un seul coup, c'est comme s'il avait dormi avec toi et ça ne lui plaît pas du tout ce que tu lui dis.
Non,
d'autant plus que là, il se dit, tiens, mais j'étais dans une espèce d'état proche de l'Ohio. On parle de Virginie, on ne sait pas où on est. Est-ce que c'est un
Virginie.
État, Virginie? Est-ce que c'est un prénom? Il ne sait plus où il habite, Julien, là.
Mais c'était à Bordeaux, pour être précis.
Ah bah,
et la
donc.
Deuxième anecdote, c'est que je lui ai offert une chemise western.
Ah, il s'en rappelle très très bien. Mais oui, tu l'as encadré.
Eh bien, voilà.
Il s'en rappelle très très bien. Il te remercie pour la chemise. Il me sort la photo à l'heure actuelle. Je vois la photo sur Nostalgie. En tous les cas, Albert, c'était un bonheur de converser avec toi. Je te remercie et merci pour tous ces souvenirs qui ont touché au plus profond Julien Clerc. Je le vois sur son regard, sur son sourire. On l'a fait sourire, c'est bien l'essentiel. Merci Albert, à vous les studios. Tu vois, on est à l'époque de Guy Lux, c'était vraiment fantastique.
À vous Cognac Jeff.
C'était exactement ça. Avant de laisser la parole aux auditeurs qui ont laissé des messages sur le WhatsApp au 06 60 495 875, il est complètement allongé sur la console Julien Clerc. Je vais bien sûr maintenant parler du Jean-Luc sans filtre. Ce sont des questions que je vais me permettre de te poser sans filtre. Accroche-toi, c'est pire qu'Albert.
D'accord.
Jusqu'à 20h.
Et maintenant, Jean-Luc te pose des questions sans filtre.
J'ai adoré. Nostalgie. J'ai adoré. Enfin, déjà, j'ai adoré ce moment. Avant de laisser parler les auditeurs sur le WhatsApp du WhatsApp, eh ben, je vais quand même te poser deux, trois questions. Il y a eu, à propos du titre ACAC, hein, ça va piquer un petit peu.
Ah c'est oui, questions... c'est drôle, j'y repensais il y a quelques jours.
Eh ben, tu vois comme quoi je suis dans ta tête.
Ouais.
Albert, il est chez toi et t'as rien senti.
Ouais.
Tu vois, Albert, tu vois. Mais Sophie Marceau à l'époque.
Ouais, hein. Mais j'y ai repensé, elle avait raison.
Alors pour dire aux auditeurs, et je vais te laisser la parole, toi qui aimes aussi la radio comme moi, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Parce que dans
il y a David, c'est David McNeil qui est un peu coquin. On voit bien que l'inspiration de David, que ce soit dans, en particulier dans Mélissa, ou même un peu dans Hélène, et même dans des chansons qu'il n'a pas écrites pour moi, il y a quelque chose chez David qui, dans une position de mec qui est un peu caché, qui regarde comme ça.
La position n'est pas obligatoirement verticale, mais plutôt horizontale.
Non, elle est verticale, mais il mate un peu, comme ça, voilà. Il a une inspiration un peu de mateur.
Ouais.
Et donc, bon, tout bien, tout honneur. Et là, il avait fait une chanson sur, en fait, il m'avait donné un texte qui était que, on en a marre de tous ces trucs qui blessent, qui sont piquants, qui sont coupants, qui sont... Et ce qu'on aime, c'est les choses rondes. Et, avait-il dit, donc, les seins de Sophie Marceau.
Alors elle avait faux très... des ballons, faux des cerceaux, et les seins de Sophie Marceau, ça
et
va
Et elle l'avait
même...
mal pris, et j'ai réfléchi depuis. Mais c'est vrai que le monde, en plus, a changé depuis. Je pense qu'aujourd'hui, on le ferait plus, on l'écrirait plus, je crois. Nous, on faisait ça un petit peu en honneur d'elle, et elle l'avait très mal pris. Et je pense qu'elle avait raison, en fait. Voilà. On était...
Impudique.
Non, mais elle avait dit c'est mon corps, etc. Et je trouve qu'avec le recul, c'est drôle que tu me poses une question là-dessus, car je pensais à ça tout seul il y a deux jours. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le ferait plus, voilà, tout simplement.
Tu en as reparlé avec elle ?
Non, parce que je ne la connais pas très bien.
D'accord.
Je sais qu'entre-temps, elle m'avait pardonné, paraît-il. On me l'avait dit. Si je la rencontre un jour, bien sûr, j'en parlerai volontiers avec elle et je m'excuserai sans doute parce que effectivement c'est quelque chose qu'on ferait plus de nos jours.
Ah là 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 là. Bon, alors on continue bien évidemment avec deux petites dernières questions parce que on va te les poser dans un court instant. Le petit Julien.
Mmh.
On se rappelle du petit Julien. Tu vois, par le travers
sérieux, ouais.
Tout ça. tu lui dirais quoi aujourd'hui sur le parcours accompli ? Parce que, effectivement, le temps a tourné. Tu étais le premier à faire le Zénith, hein, c'est ça ? Je dis pas de bêtises.
Non, Bercy.
Bercy, pardon. Et tu vas refaire Bercy.
Mm-hmm.
Le petit Julien de l'époque, tu lui dirais quoi sur tout ce temps qui est passé bientôt 80 ans après ?
Non, mais je crois que je suis resté à peu près. Je dirais, tu vois, je suis à peu près resté. Fidèle, enfin, à ce que tu voulais.
Voilà. C'est important, la fidélité, hein, pour toi, la sincérité, la fidélité.
La fidélité en amitié,
ouais.
en tout cas.
Ouais.
des fois, le reste, on n'est pas... Non, mais on sait,
oui.
Sur toute une vie...
Les tentations...
On n'est pas.
La
mais,
vie.
Mais,
Albert, je sais, les liens que tu as avec Albert. Mais oui, mais, et sa chemise.
Mais sur l'amitié, je pense que c'est une vertu absolument cardinale. La fidélité en amitié. Et donc, la fidélité aussi, je pense que la vie est passée par là, comme pour nous tous, mais en gros, je crois être à peu près resté fidèle à ce que je voulais faire, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que je ne pensais pas que j'aurais des enfants, évidemment, mais ils sont venus, les enfants, je les ai accueillis à bras ouverts. Évidemment, je ne savais pas comment tournerait la vie de famille, mais sur l'artiste, est-ce que je comptais être et faire, je pense que ça correspond à peu près à ce que j'espérais. Enfin,
c'est rigolo parce que de l'artiste au début, ça devient de l'arthrite après.
Non, oui, bien sûr, comme tout le monde.
Mais évidemment. Monde. Deux dernières questions. Avant de laisser parler les auditeurs et puis de t'écouter, parce que pour moi, il y a une chanson qui est totalement déchirante et que j'adore au plus haut point. Il y a quand même un thème que t'aimerais aborder, que t'as peut-être pas obligatoirement abordé, parce qu'effectivement, les portes s'ouvrent comme ça sur ton chemin, sur ta vie.
Oui, oui.
Il y a quelque chose qui te titille depuis un moment, que tu aimerais aborder ou pas ?
Non, c'est la vie qui me l'est propose.
Oui, c'est
chaque
ça.
Fois.
C'est
et donc,
des
quand j'ai le truc de la peine de mort, c'était vraiment ponctuel, factuel. Enfin, c'est vraiment tombé. C'est la vie qui me l'a offert. Et souvent,
cadeau,
la vie, c'est à travers les auteurs, en fait.
Ouais.
C'est pour ça que je les cite toujours, pour qu'ils ont été tellement importants pour moi, car c'est eux, bien souvent, qui m'ont amené les sujets que j'ai chantés.
Ouais.
J'en ai réclamé quelques-uns, mais sinon. C'est eux qui me les ont proposés. L'Éparvis en est le meilleur exemple. Ça vient de Paul École. C'est pour ça que je tiens à le citer à chaque fois. On a tendance à oublier les auteurs dans les chansons.
Bien sûr.
On oublie. Et ils sont très, très, très importants. C'est une place très importante parce que si on accompagne les gens dans leur vie, c'est grâce à la musique aussi, mais bien sûr les paroles.
Les gens qui t'ont accompagné, ils ont été des forts. Il y a une parenthèse inattendue de ta part, c'est la perte de ton frère, Gérard.
Ouais.
Le soir même, tu es sur scène tellement...
Ouais, deux jours après.
Deux jours après, c'est hyper violent. Et toi, tu trouves la force d'y aller.
Non,
comme...
mais je ne prends pas les choses comme ça.
Tu les prends
pas
comment?
Que c'est la force.
Non, dis-moi comment
Au
tu
contraire,
les prends.
C'est d'y être allé qui m'a donné de la force. Je n'ai pas du tout trouvé la force d'y aller. Mais y aller m'a donné de la force. On fait un métier, malgré tout, public. Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique, mais je partage certaines choses. Parce que quand on est dans la vie des gens, il est normal de partager des choses avec eux. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'un artiste peut partager avec son public.
Bien sûr.
Le public, il vous est fidèle. Et il est normal de partager les choses graves de la vie avec son public. Et je n'ai pas du tout eu la force. C'est le fait d'y aller qui m'a donné de la force.
Et c'est le respect aussi, comme l'a eu d'ailleurs Patrick Sébastien, Roland Giraud, toutes ces personnes qui le soir même étaient sur scène, ou d'un seul coup, voilà, on était là pour le partage.
Il me semble que c'est une loi de notre métier.
Très bien.
On n'a pas à avoir d'état d'âme. C'est notre métier, c'est notre façon de vivre. On doit se produire quand... voilà, si ce soir-là, on doit se produire, j'espère pas qu'il m'arrivera d'autres horreurs dans ce genre, mais si malheureusement ça m'arrive, si je dois chanter le soir même, je trouverai évidemment la force de chanter.
C'est extraordinaire. On termine dans un très court instant, mais pour moi, je dois t'avouer que tout ce que j'ai vécu là, pendant une bonne heure avec toi, c'était une espèce de préférence, toute simple.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait.
Jean-Luc Reichmann vous emmène en week-end.
On se tutoie sur Nostalgie.
Julien, la préférence, elle est toujours aussi forte quand on l'écoute ou pas, la préférence?
Et quand je la chante?
Non, parce que là, je vois que tu l'écoutais.
Oui, j'écoute toujours parce que, comme j'arrive à une période de scène,
oui,
et j'en ai parlé avant, j'écoute les versions originales pour le son. Et je sais que sur celle-là, je sais quoi dire aux musiciens sur celle-là. Voilà.
Qu'est-ce que tu leur dis?
C'est le son des cordes. Le chef Jean-Claude Petit, dont on n'a pas parlé, là, et je vais en profiter pour en parler, quand il est parti, intégrante du son. Allez, pour un coup, je vais parler à la troisième personne, du son Julien Clerc, c'est Jean-Claude Petit qui l'a imprimé dès le début. Il a été aussi important, Jean-Claude, que moi en tant que compositeur et Étienne et Momo en tant qu'auteur. Mmh. Il a apporté, il était jeune arrangeur à l'époque, il a apporté cette espèce de son, il m'a offert ce son sur qui habillait mes chansons et je veux absolument reproduire ça quand les gens viennent m'écouter sur scène. Donc, j'écoute souvent les arrangements, en fait.
Ce n'est pas
les chansons que j'écoute. Surtout en période de scène, j'écoute les arrangements originaux. Mm-hmm. Et je sais quoi dire aux gens qui vont m'accompagner.
Tu as peur de ta voix, qu'elle parte? Tu as peur de faiblesse de cordes vocales, de fatigue
Ça peut arriver.
Oui.
Surtout à cause d'un rhume, par exemple.
Oui, bien sûr.
Mais enfin, sinon, non, je n'ai pas peur. Parce que je travaille tellement que je fais tout pour que ça n'arrive pas. Maintenant, ça peut arriver. Même quand on travaille beaucoup, on peut avoir un truc, une espèce de voile qui vous tombe dessus, vous n'y pouvez rien parce que vous couvez un rhume ou parce que vous chantez en extérieur, dans une région humide et que tout d'un coup ça vous tombe dessus. Mais normalement, ça ne doit pas. Si vous travaillez, il n'y a pas de raison qu'il arrive quoi que ce soit.
Tu vois comment tes collègues qui arrêtent parce qu'il n'y a plus la niaque, parce qu'il n'y a plus la justesse, parce qu'il n'y a plus la puissance vocale. Je parle des Sardou, des Lamade, etc., etc., qui ont décidé eux-mêmes d'arrêter. Et puis finalement, ils y retournent comme Sardou, et puis ils l'arrêtent, et puis ils y retournent, et ils ne savent plus trop.
Moi, je serais plutôt, comme une de mes idoles, Bob Dylan, je serais plutôt partisan du Never Ending Tour, c'est-à-dire la tournée qui ne s'arrête pas.
C'est extraordinaire, c'est un parfait inconnu. J'en ai parlé avec Hugo Frey. Ici, puisque c'est quand même Hugo Frey qui l'amène en France quelque part. Never Ending Tour.
Voilà, Never Ending Tour.
Les auditeurs ont la parole. Les deux dernières questions, je me suis vraiment régalé avec toi. Tout d'abord, je crois qu'elle se prénomme Eléa, c'est une femme. Et elle est de Nice et elle te pose une question.
What's happened sur le WhatsApp de Jean-Luc?
Salut Julien, salut Jean-Luc, c'est Léa, je viens de Nice et je me posais la question pour toi Julien, quelle est la musique de ton répertoire qui te ressemble le plus?
Ah oh, alors ça,
il n'y en a pas qu'une.
Ouais, il y a des styles, il y a des tendances.
Non.
Mais
non.
Celle que tu... C'est important ce que dit Léa, celle que tu ressortirais. Celle qui... C'est fort, c'est celle qui te représente.
Il n'y a pas une chanson qui me représente plus, pour la bonne raison que j'ai des goûts très variés.
Et puis c'est des tranches de vie, c'est ça?
Oui, mais quelle que soit l'époque où elle était composée, j'ai toujours eu des goûts variés. Et ils se retrouvent dans mes compositions, en fait, ces goûts variés. Alors ça mélange la musique classique, la pop anglaise, la chanson française, la musique brésilienne, toutes les musiques que j'ai toujours aimées, je pense qu'elles se retrouvent dans ma musique. C'est pour ça qu'il n'y a pas une chanson qui me ressemble particulièrement. Mais si on veut en citer une, je pense que c'est ma préférence. Pourquoi? Parce qu'elle est l'exemple type d'une chanson qui peut paraître facile quand on l'entend, et qui n'est absolument pas facile. La suite harmonique est complètement un peu absurde.
Pour l'auditeur qui n'a pas la référence de la suite harmonique, c'est quoi ?
C'est les accords qu'on fait là, au piano, avec ses doigts. Elle paraît facile et elle ne l'est pas du tout. Voilà, en gros, si on veut résumer la chanson. Quand on l'entend...
À chanter, c'est la même chose, c'est dur ou pas ?
Non, elle n'est pas particulièrement dure à chanter, sauf qu'elle est basse et qu'il faut justement...
Alors soigner là, pour les le aigus.
Coup, justement, pour le coup, là, les aigus n'ont rien à voir, mais c'est les basses.
La toute dernière question, ça va te dire quelque chose. J'ai eu la chance de rencontrer une personne au cours de ma vie et tu vas voir, c'est assez bizarre. Elle a un prénom très, très, très parfumé.
What's happened sur le WhatsApp de Jean-Luc?
Coucou.
Coucou.
L'autre jour, tu nous as raconté ta première audition dans une maison de disques.
Ouais.
Et c'était une chanson apparemment très longue sur un texte poétique mais très compliqué de Rodagile.
Mm-hmm.
Et j'ai beaucoup aimé la réaction du producteur, du patron de la maison de disques. Est-ce que tu peux nous la redire, s'il te plaît?
Pour auditeurs, voilà, c'est ta fille qui
s'appelle. C'est ma fille qui me pose la question.
Vanille, merci Vanille, j'adore.
Elle ne connaissait pas cette histoire, c'est vrai que
je l'ai reçue à la télé, Vanille, j'ai vraiment sympathisé avec elle. Je l'ai vue à Bordeaux pour une association pour les femmes, etc. etc. Elle a de vraies valeurs, elle est superbe.
Elle est super, elle fait ça comme il faut, elle prend ce métier, je trouve, du bon côté, elle est honnête intellectuellement et artistiquement, et ça me plaît.
Cette histoire de producteur, s'il te plaît, pour terminer et répondre à ta fille.
Bon, alors donc, je suis allé auditionner, donc, après une première audition un an ou deux avant qui avait mal tourné, je suis allé auditionner, donc enfin, on était prêts, on avait des chansons, et on avait choisi soigneusement les chansons, Étienne Rodagile, Momo Vallée et moi-même, et on avait décidé qu'en première chanson, j'en chanterai trois, je chanterai une chanson dont étaient très fiers Étienne et moi, qui s'appelait « Hécatombe ». Mmh. Autant vous dire qu'elle n'est jamais sortie, cette chanson. Mmh. Elle était très longue et très compliquée. Mais pour nous, c'était comme ça qu'il fallait auditionner. On était là pour impressionner. Donc je suis allé auditionner ils m'ont fait auditionner dans la grande salle de réunion à l'époque de la maison de disques Pathé Marconi, qui est rue Lord Byron à Paris. Et alors là, il y avait une grande salle de réunion avec une grande table et un petit piano droit qui était contre le mur. Et donc ce Bob Soquet, qui était donc le directeur artistique en pointe à l'époque chez Pathé Marconi, s'était assis derrière moi sur un coin de table. Et moi, j'étais là face au mur à me débattre avec cette chanson dont on était très fiers. Avec Étienne, comme disait Dabadi, qui était une chanson à l'abri du succès.
Oui.
Et donc, je chantais ça en me démenant. J'avais un trac terrible. Et à la fin de la chanson, j'étais en eau, littéralement.
Oui.
Et alors, je me suis tourné parce qu'il était derrière moi. Et alors, pour la première fois de ma vie, j'ai vu dans les yeux d'un être humain...
Oui.
Une espèce d'admiration. Il faut dire que je jouais mes chansons à mes copains depuis toujours qui n'étaient pas très convaincus. Et là, c'était un type, un, que je ne connaissais pas, deux, de ce métier qui était mon Graal. Et alors, il me regardait, il m'a regardé fixement comme ça. Et il a dit, c'est pas rien.
C'est extraordinaire.
Et alors là, c'était ce qu'on voulait absolument avec Étienne et Momo. Qu'on nous dise, c'est pas rien. Voilà. Alors d'ailleurs, je me souviens m'être, après cette audition, m'être précipité dans le bistrot où il m'attendait, en bas, sur les Champs-Élysées. J'ai dit, le mec, il m'a dit, c'est pas rien.
Trois mots, c'est pas rien. Ouais.
Bon, cela dit, quelques jours après, ils m'ont dit, écoutez, vous avez des bonnes chansons, c'est ça, mais il n'y en a aucune, je vous dis tout de suite. qu'on va enregistrer, alors remettez-vous au travail. On s'est remis au travail et on a écrit La Cavalerie, je pense, 15 jours après avec Étienne.
Écoutez, c'était pas rien cette petite interview sur Nostalgie avec Julien Clerc que vous pourrez retrouver en podcast sur nostalgie.fr. C'est toute une vie qu'on a parcourue en quelques temps avec Julien, qui sera, comme je vous l'ai dit, un petit peu partout en tournée sur les deux années qui viennent. En tournée, bien sûr, un petit peu plus personnelle sur la tournée des théâtres. Et puis un peu plus ouverte encore l'année d'après sur les Zénith, sur les Accor Arena. Comment te dire que c'est un morceau de vie que je viens de vivre avec toi et que j'ai adoré ça?
Merci cher Jean-Luc, je te remercie.
Voilà, on se tutoie à tout jamais et ça me fait plaisir. Bon week-end.
Salut.
Et bonne route, merci à toi.
Nostalgie. On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann.
Tous les vendredis soirs, 19h-20h.
Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.